Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette-Durocher.
Ces jours-ci, en France, il y a un procès extrêmement important qui se déroule. C'est le procès des événements de novembre 2015. Donc, vous vous en souvenez, évidemment, l'attentat islamiste au Bataclan, dans la salle de spectacle, mais aussi à la terrasse des cafés et des restaurants. Et si vous suivez ça sur les médias sociaux, c'est terrifiant. Et moi, ça me terrifie et ça terrifie aussi Marie-Claude Barrette. Bonjour, Marie-Claude.
Bonjour Sophie, c'est vraiment épouvantable de lire à chaque jour les témoignages des survivants de cet attentat et moi je ne peux pas décrocher, à chaque jour je vais lire, à chaque jour j'ai, quand on comprend tellement c'est quoi un choc post-traumatique, on comprend tellement ça veut dire quoi être survivant. Il y a des témoignages qui, en fait, tous les témoignages, c'est l'horreur, hein, ce qu'ils ont vécu. On peut imaginer, là, 1500 personnes dans une salle de spectacle et tout à coup, les terroristes arrivent, se mettent à tirer partout. Ils étaient pris, là, vraiment dans la salle de spectacle. Il y en a évidemment plusieurs qui ont réussi à sortir, mais à quel prix ils sont sortis de cette salle-là et à quel prix ils en sont sortis vivants. Et c'est là que c'est l'horreur. Écoute, il y en a une qui témoignait récemment, elle s'appelle Maureen, puis elle disait « Le plus dur, c'est de faire le deuil de soi. » Puis elle disait « Avec cet événement-là, j'ai l'impression d'en avoir pris à perpétuité. » Parce que tu ne t'en sors jamais des images de gens qui meurent devant toi, qui se font tirer. Et ils ont une culpabilité aussi d'avoir quitté la salle. Parce que s'ils sont survivants, c'est qu'à un moment donné, il y en a qui ont joué, c'est pas un bon terme ici, il y en a qui ont décidé de faire les morts, donc ils étaient en dessous d'un paquet de gens qui mouraient sur eux. On peut imaginer quand tu ressors de ça, dans quel état tu es. Il y en a qui ont décidé, il y avait des opportunités de fuir, ils l'ont fait en laissant des gens derrière eux, des regards qu'ils croisaient de gens qui les suppliaient de les aider. Ils ont fait le choix de sortir parce qu'ils savaient de toute façon qu'ils n'en sortiraient pas vivants, s'ils restaient. Mais ça suit ces gens-là. Il y en a qui ont des problèmes d'alcool. Il y en a un entrepreneur qui a tout perdu parce qu'il dit on ne peut pas survivre après, vivre en fait normalement en étant survie après avoir vécu ça. Donc, on se rend compte à quel point il y a des gens qui sont décédés et il y a des gens pour qui la vie devient extrêmement difficile. C'est très, très dur. Je ne sais pas si tu as le même feeling que moi, Sophie.
Totalement. Écoute, moi, je veux rendre hommage aussi, bien sûr, aux survivants et c'est important d'avoir des yeux et des oreilles dans ces procès-là et je suis le compte de, écoute, peut-être 6 ou 7 journalistes différents qui vraiment, en direct, là, au fur et à mesure que ça se passe, transcrivent ça, mettent ça sur Twitter ou sur Facebook. On a vraiment l'impression d'être dans la salle de procès avec eux. Et ils nous décrivent aussi les réactions physiques que des différents témoins, des différents survivants. Et j'ai vraiment accroché à la même chose que toi, c'est le sentiment de culpabilité. Tu dis, ben comment ça se fait que ces gens-là se sentent coupables? Dans certains cas, ils se sentent coupables parce que, par exemple, leur blonde ou un membre de leur famille était là et se sont précipités pour aider en priorité leurs proches versus quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Et ils restent avec cette culpabilité-là en disant, ben pourquoi je me suis occupé de mon meilleur ami au lieu de m'occuper de quelqu'un qui était peut-être beaucoup plus blessé ou beaucoup plus... Et c'est là qu'on se rend compte que quand on lit, il y a eu un attentat à tel endroit où il y a une bombe qui a explosé, on se dit, bon, ben, il y a eu 23 morts. Puis là, après ça, quand on est rendu aux blessés, on s'intéresse pas vraiment aux blessés.
Ouais,
mais les blessés, là, c'est des blessures majeures. Et c'est surtout, c'est pas juste des blessures physiques, c'est des blessures psychologiques absolument épouvantables. Et c'est, on leur doit ça aux survivants d'écouter leurs témoignages parce que, on a trop souvent tendance à dire « Ah, oh, ben là, t'es pas mort. Reviens-en, retousse-toi les manches, t'es pas mort, ah oui. Prends-toi chanceux. » Ben, dans certains cas, c'est peut-être pire, là. C'est important, Marie-Claude, ce qu'on fait là. C'est important de mettre des mots. Tu sais, parce que, encore une fois, je reviens à ça, quand tu lis dans le journal, quand tu regardes la télé, puis on dit, bon, il y a eu un attentat à tel endroit, jamais on va rentrer dans ces détails-là. Mais on le doit aux victimes, on le doit aux survivants, on le doit aussi à la mémoire des gens qui sont morts, de décrire exactement ce qui s'est passé. Parce que c'est trop simple de dire, oh, il y a eu un attentat au Bataclan, point. Il y a eu tant de morts.
On veut pas,
point.
On veut plus en entendre parler, tu sais, non.
Exactement. Exactement. Puis non, on veut surtout pas avoir les détails parce qu'on n'a pas envie, nous, de se faire des images dans notre tête. Mais on leur doit ça. Je pense que c'est un respect. Et aussi parce que, c'est particulièrement horrifique, là. Je veux dire, il y a vraiment certains de ces djihadistes-là qui, ont été particulièrement sadiques. Puis là, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais ils ont vraiment joué avec les nerfs des gens. Ils ont pas juste tiré dans le tas, là. Je veux dire, c'est vraiment, en tout cas, bref. Je veux
Et
pas
ce
trop
procès-là,
rentrer dans...
Mais ce procès-là va se terminer en mai. Donc, il y a encore beaucoup de témoignages, là. Pour les gens qui veulent le suivre, c'est comme tu disais dès le départ, il est facile à suivre. Ce procès-là, facile à trouver, mais pas facile sur le plan psychologique à suivre, par contre, parce que c'est vraiment, comme tu dis, beaucoup de détails. Puis moi, ça me ramenait à Polytechnique. Tu sais, il y en a eu aussi des attentats au Québec. Et je me souviens quand Karine Vanasse disait qu'elle voulait faire un film sur Polytechnique. Moi, dès le départ, je ne comprenais pas. Et finalement, quand on a vu le film, j'ai tout compris. Tu sais, je me disais, c'est pas en disant non, c'est trop lourd, on veut rien savoir. Non, un instant, il y a des drames qui se passent et au niveau de la société, on doit y faire face. Et tu sais, moi, j'ai interviewé, j'imagine toi aussi, souvent des victimes de Polytechnique.
Absolument.
Des filles qui étaient là et c'est des témoignages bouleversants. Et à chaque fois qu'elles le racontent, c'est un peu comme si elles l'avaient vécu la veille. Donc, c'est important d'entendre, c'est important de les soutenir, évidemment, ceux, j'imagine qu'il y a des membres, des familles, des gens qui témoignent présentement à Paris qui ne comprenaient pas cette souffrance-là et peut-être qu'ils ont encore plus de support de leur entourage, même si ça fait 6 ans, le temps, il n'y a pas de prescription de temps dans ces cas-là.
C'est très bien dit. Écoute, Marie-Claude, cet été, je suis partie un mois avec mon mari et mon fils, on est allés à Paris, on a passé un mois à Paris. Puis on se promenait tout le temps dans les rues, tu sais, au hasard de nos promenades. Puis à un moment donné, on marche dans la rue, puis je me retourne et je m'arrête. Et Richard voit dans mon visage qu'il y a quelque chose qui va pas, je suis au bord des larmes. Là, il lève les yeux, on était devant le Bataclan. Puis on a expliqué à mon fils ce qui s'était passé et tout ça. Et de l'autre côté de la rue, de la salle du Bataclan, il y a un petit parc avec des bancs. Et à côté de ces bancs-là, parmi les petits arbres, parmi les fleurs, parmi le gazon, il y a une pierre en hommage à toutes les victimes. Puis écoute, il y a des fleurs, il y a des gens qui étaient venus. Puis écoute, c'était il y a 6 ans, là. Et encore une fois, il y a encore des gens qui viennent porter des fleurs. L'important de se rappeler pour que au moins ces gens-là ne soient pas morts en vain, que ça nous conscientise à certains problèmes de société, à certains problèmes de radicalisation, c'est important. En tout cas, si vous allez à Paris, oui. Allez vous recueillir devant le Bataclan, vraiment, c'est un événement novembre 2015 qu'on n'est pas prêt d'oublier. Écoute, Marie-Claude, on est assez sombre aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Tu veux me parler aussi des familles d'accueil, parce que tu as eu une rencontre marquante avec Nancy Audet. Quelle femme formidable, hein?
Quelle femme formidable, et moi j'ai envie de parler justement du côté lumineux des familles d'accueil, parce que ce qu'on voit, tu sais, quand on entend parler malheureusement des familles d'accueil, c'est souvent parce qu'il y a eu un drame, parce qu'il y a eu un abus sexuel. Mais il reste que c'est très rare que ça arrive dans les familles d'accueil, sauf que quand ça arrive, évidemment, c'est dénoncé avec raison parce que ce sont des enfants qui sont mineurs, qui n'ont pas de défense, qu'on place là, ils n'ont pas un mot à dire. Alors, c'est normal qu'on dénonce. Mais par contre, Nancy Audet arrive avec un documentaire où on met en lumière... C'est pas flamboyant, c'est pas nécessairement tout beau tous les jours, mais quand même, c'est elle là, c'est ce qui l'a sauvée dans sa vie, c'est d'avoir été en famille d'accueil. Donc une famille d'accueil, c'est aussi c'est aussi un lieu où on peut changer la vie d'un enfant. Et on a tellement besoin, Sophie, des maisons d'aide, des familles d'accueil, parce que c'est vraiment un filet de sécurité qui empêche les enfants d'être seuls. Tu sais, je veux dire, et Nancy Audet racontait à l'émission que j'ai fait là-dessus. Elle raconte. Tu sais, elle dit, faut penser au féminicide, là. Elle dit, moi, j'ai une amie qui est famille d'accueil, puis un enfant qui est arrivé en pleine nuit parce que sa mère venait d'être assassinée, là. Alors, cet enfant-là n'a pas de... Tu comprends, il est dans la maison, il n'y a pas de lieu pour aller porter. Alors, la famille d'accueil, parce qu'il y a des familles d'accueil d'urgence, il y a des placements d'urgence. Alors, c'est arrivé en pleine nuit. Alors, tu peux imaginer le rôle qu'ont ces gens-là quand un enfant comme ça arrive. Il y en a une autre qui me racontait, qui était avec nous, Marie-Pierre, qui elle a plusieurs enfants en famille d'accueil, elle et sa conjointe en Beauce. Puis elle racontait, elle dit, à un moment donné, on m'a appelé, j'ai un enfant à aller te porter. Elles ont le couché dans un lit. Puis là, t'es là un instant, est-ce que je peux avoir son nom, son âge? Est-ce qu'elle a des allergies alimentaires? Imagine, là, elle dit, moi, j'ai pas dormi de la nuit parce que le lendemain matin, là, la petite, elle allait se réveiller. Qu'est-ce que je vais dire? T'es plus dans ta famille. Alors, tu sais, il y a toutes sortes d'histoires, mais c'est des gens, moi, je voulais souligner la vocation.
C'est vraiment, c'est bien dit. Vraiment, ça prend une vocation, là, tu sais, parce que, en plus, dans cette docu-réalité, donc, être famille d'accueil, il y a une famille, je pense, ils ont 10 enfants, il y a vraiment une grosse famille d'accueil. Tu dis, toi, t'en as plusieurs enfants, moi, j'en ai juste un.
Moi, j'avais atteint ma capacité, là, par exemple. Là, je te dirais que, à 10, mais c'est une organisation incroyable, là, tu sais. Puis moi, je leur disais, qu'est-ce que vous dites aux gens, ceux qui disent que vous faites ça pour l'argent? Puis, écoute, il n'y a même pas personne qui a comme voulu répondre en voulant dire, garde, là, qu'est-ce que tu veux? Et la présidente, Geneviève Rioux, là, du regroupement des familles d'accueil, a dit, écoute, on a tellement de paperasse à remplir puis de comptes à rendre que finalement, on est payé pour ça. On n'est pas payé pour être avec les enfants. Mais tu sais, ce qu'elle voulait dire, c'est, on ne peut pas faire ça pour l'argent. Écoute, c'est bien trop prenant. C'est normal qu'ils soient rémunérés. Écoute, ils s'occupent d'enfants, de parents qui sont inadéquats, des fois à un moment précis de leur vie et des fois pour le reste. Tu sais, il y a des enfants qui vont être en placement jusqu'à l'âge de 18 ans. Des fois, ils en adoptent aussi des enfants qui sont placés. C'est souvent ce qu'ils souhaitent. Mais Marie-Pierre me racontait aussi, à un moment donné, elle a eu un enfant à quelques jours de vie jusqu'à l'âge de 2 ans. À 2 ans, le père a demandé à nouveau de reprendre son enfant et la petite
déchirant.
Est partie. Et elle dit, ce qui manque, on n'a pas de soutien. Elle dit, moi, là, j'étais dans un deuil. Elle dit, on venait de manger un enfant. Imagine, tu peux pas ne pas t'attacher. Tu peux pas dire à quelqu'un, non, mais vous les gardez, mais on peut venir les enlever. Attachez-vous pas, c'est impossible. Premièrement, l'enfant a besoin qu'on s'attache à lui. L'enfant a besoin de s'attacher aussi, a besoin de se sentir en sécurité, a besoin de se sentir aimé. Alors, c'est des témoignages qui sont bouleversants. Moi, j'ai juste vu les 2 premiers épisodes parce que ça va être disponible sur Moins Compagnie, je pense, autour du 27 octobre. J'ai vu les 2 premiers épisodes et j'ai pleuré, je pense, 3 fois pendant que je regardais ça parce qu'il y a des moments touchants. Et tu sais quoi? Il y a un jeune qui dit, c'est un ado, il dit, moi, j'avais honte d'être dans une famille d'accueil.
Ah oui!
Et même Nancy Audet racontait à l'émission, elle dit, écoute, tu fais rire de toi, tu sais, parce que t'es dans une
quand
famille d'accueil.
Quand tu dis
d'accueil.
Ça à l'école,
ouais, c'est comme, regarde, toi, t'es habillé n'importe quand, toi, t'es pas comme les autres, tu sais, toi, t'as pas vraiment de parents, tu sais. Et cet enfant-là, cet ado-là, dit, moi, j'avais honte. Puis il dit, depuis que je suis dans ma nouvelle famille d'accueil, je suis fière. Ça fait
des
du bien
beaux
d'entendre
témoignages.
Ça. Puis ça fait, ça, je pense que on doit mettre en lumière ces familles d'accueil qui remplissent cette vocation-là avec aplomb, avec détermination, et c'est un don de soi. Puis oui, il y en a pour qui c'est plus difficile, les familles d'accueil, mais on peut-tu, de temps en temps, parler de ce qui va bien aussi. Et ils ont des revendications.
Puis les remercier, aussi pour leur générosité.
Je veux juste rapidement, vite. Moi, là, quand j'ai eu 3 enfants, je me disais, si on décède les 2 parents en même temps, peut-être que nos enfants vont se retrouver en famille d'accueil. On n'est jamais à l'abri de
ça. C'est vrai.
Peu importe qui on est. Alors, c'est juste ça que je voulais dire. Bravo, chapeau à ces gens qui se portent volontaires pour prendre en charge les enfants des autres.
Oui. Nos enfants, finalement, au final.
Enfants.
Écoute,
cette
docu-réalité, donc, animée par Nancy Odette, qui est absolument formidable. D'ailleurs, je vous recommande son livre. Ça va être diffusé à la chaîne Moi et compagnie le 27 octobre. Merci beaucoup, Marie-Claude.
Merci.
Peut-être un sujet plus léger demain.
Oui, demain.
Mais ça en prend.
OK.
Ça en prend.
Bye.
Merci. Bye.